s'écrit d'ici, avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel des auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors, retrouvez-nous le premier mercredi de chaque mois sur Jet FM 91.2 à 17h30 et en rediffusion le troisième mercredi du mois, toujours sur Jet FM 91.2 et toujours à 17h30.
Et en podcast sur jetfm.asso.fr.
Et à toutes, nous sommes ravis de vous retrouver après ces longs mois d'interruption. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour André. Et bonjour Gisèle. Écrit d'ici, l'émission du Ciala qui donne la parole aux auteurs reçoit aujourd'hui Gisèle Tuaal van Gerdinge. Gisèle Tuaal van Gerdinge, merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre émission de reprise.
Merci de m'accueillir. Merci à tous les trois.
Donc, l'objet de notre émission aujourd'hui, c'est votre dernier ouvrage qui s'appelle « Eva ou le boulevard de la libération », paru en 2017 aux éditions GVG et qui est le petit dernier d'une trilogie. Alors peut-être pour commencer notre échange, on aimerait savoir comment ce livre s'inscrit justement dans votre bibliographie, dans cette trilogie.
Alors, tout a commencé par le besoin d'écrire pour mes enfants. Nous avons 5 enfants avec mon époux. Et raconter une histoire, tous les jours on en parle bien sûr, mais le lire, j'ai pensé que ça aurait pu être différent pour eux. Donc je me suis mise dans un coin au temps des cassettes et j'ai enregistré ma voix et donc mon histoire. C'est parti comme ça venait. Puis je me suis dit, tiens, je vais peut-être... le taper à l'ordinateur, ça m'a plu de le faire. Et mot pour mot, je retraçais vraiment ce que j'avais écrit de mon cœur, ce que j'avais dit de mon cœur, par les mots. Et donc, c'est devenu le premier livre qui a été édité à Lyon. Le deuxième, je me suis dit, bon, ta vie, elle est ce qu'elle est, tu es d'un grand-père guérisseur, mais c'est très particulier quand même tout ce que j'ai vécu. Et je ne connaîtrai jamais la finalité du pourquoi cette vie-là pour moi. Donc, je me suis fait le plaisir d'inventer une enquête, ma propre enquête sur ma propre vie. D'où le deuxième, qui termine avec un grand point d'interrogation d'ailleurs, parce que je n'ai rien résolu de ma vie. Mais voilà, c'était écrit. Et le troisième, Eva ou le boulevard de la libération, eh bien, c'est un peu la catastrophe de ma famille. Alors que le premier dit que nous étions une grande famille, pleine d'amour, que tout était bien, tout était pour l'autre, dans le meilleur des mondes. Et c'est terminé par une grande catastrophe et un grand vide pour moi.
André va nous lire le début du livre « Lettre à ma mère ».
Ma vie a commencé, maman, un 14 octobre de l'an 51, alors que ton père cessait d'être un guérisseur apprécié et aimé, et que la voix publique et les journalistes en faisaient un illumineux venu sur terre pour glorifier et accomplir le message de Jésus-Christ. Tu ne m'as jamais expliqué ni codifié l'aventure de ton père, mon grand-père. Je suis issu d'un couple qui s'est aimé passionnément. Tous deux enchaînés dans cette grande maison, entourés du patriarche, de son épouse et de leurs 5 enfants. Que d'instants radieux nous avons vécu au sein de ce nid que vous avez su protéger des griffes de leur vérité. Votre vérité, la tienne, maman, et celle de ton mari, m'a porté, aimé, choyé. Que c'était bon, maman. Votre idéal est devenu le mien, sans jamais connaître le moindre doute. À 3 ans, j'étais sur le siège bébé de ton vélo, 7 kilomètres pour aller dans la grande ville y tenir tes réunions. J'étais fier de toi. Ces conférences avaient pour unique but de proclamer que tous, nous pouvions devenir guérisseurs et qu'à partir de cet apostolat, un monde nouveau pouvait naître. Proclamer que c'est à partir de ton père et de ses écrits qu'une seule et même parole pouvait réunir les croyances de tous les hommes et semer le bonheur dans un engagement total de liberté et de loyauté. Tu es belle, maman, de conviction, de certitude. Et nous voici aujourd'hui écartelés, devenus sourdes l'une envers l'autre. Je ne peux le croire ni même l'imaginer. Maman, que fais-tu de nos souvenirs? Lis ces pages, maman. Je t'invite de tout mon amour à retrouver ma main. Garde-la dans la tienne tout au cours de cette lecture. Et terminons ces 3 récits. Un reflet de ciel, la rivière sans pardon et Eva au boulevard de la Libération.
Alors Gisèle, après cette lecture de Lettre à ma mère par André, donc qui est l'ouverture de votre ouvrage, la place de la mère, de la maternité, on pourrait dire de la femme, est omniprésente dans votre ouvrage, explicitement, telle qu'on l'a trouvée dans cet extrait. Mais aussi dans toute la partie qui décrit la succession, je dirais, des maternités d'Eva et tout le plaisir qu'elle semble avoir dans ces moments-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire plus sur cette question maternité, mère, femme dans votre ouvrage?
Alors, je ne sais pas si on va se vous voyez ou se tutoyer.
C'est comme vous, tu voulais.
Voilà, c'est comme tu voulais. Okay. Donc, oui, eh bien, tu mets le doigt sur quelque chose que je n'avais pas forcément remarqué. Et mon grand-père était entouré de 3 femmes, sa femme et de 2 filles. Malgré qu'il y ait des garçons, il avait des fils. Et c'est vrai que la femme compte beaucoup. C'est quand même l'âme du foyer, et ça, il nous l'a toujours montré. Et c'est quelque chose que moi, j'ai vécu intensément. La responsabilité d'une femme d'enfanter, de donner la vie, et ça, c'est très, très important pour moi. Du coup, 5 enfants, voilà. Et toute ma vie... Et même de petite fille, mon but, c'était de me marier et d'avoir des enfants. Chose qui était absolument interdite chez nous, puisqu'il fallait d'abord penser à l'humanité. Et c'est ce que maman a très bien fait. Maman a eu donc 2 filles, encore des filles, ma sœur et moi. Et c'était d'abord sa mission qui comptait. Bien qu'elle nous a adorés, on n'a pas manqué d'amour. Et je ne voulais surtout pas reproduire ça avec mes 5 enfants. Donc oui, la maternité, engendrer et donner la vie et élever des enfants, et j'ai été assistante maternelle aussi, c'est pour moi très important en effet.
Mais est-ce que la maternité est forcément un bonheur tout le temps? Parce que c'est ce qui ressort quand même dans le livre.
Tout le temps.
Non, mais pour tout le monde, ou dans ton cas particulier, où tu penses qu'il y a des femmes qui peuvent éventuellement ne pas voir ça comme un bonheur?
Je le pense très fort, surtout avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, c'est très, très dur pour certaines filles, pour certaines femmes. Mais moi, je ne l'ai pas connu. C'était chaque fois un enchantement.
Parce qu'il y a même des femmes qui refusent d'avoir des enfants.
Et je le comprends difficilement. Ou qui vont apprendre à être mères une fois qu'elles ont leurs enfants. Et ça m'a toujours choquée. comment on va allaiter, est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va pas repousser ce petit chose dans nos bras. Pour moi, c'était complètement naturel. Et j'ai allaité mes enfants jusqu'à 6 mois.
Mmh. D'accord. Donc, en fait, ce dernier livre-là et les autres aussi, c'est un type de récit, c'est plus qu'un, enfin, c'est un récit, mais c'est une autobiographie, on peut dire ?
Oui, oui, oui. Et puis le troisième, c'est vraiment ce que j'ai vécu, donc, dans l'horreur, dans la déchirure, dans les jugements, ça a été très dur. Oui, c'est vraiment mon récit.
D'accord. Bien. Alors, il va être temps de faire une pause musicale. C'est Gisèle qui a choisi Jean Ferrat, Aimer à en perdre la raison.
Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2 dans l'émission Duciala écrit d'ici. Nous sommes en compagnie de Gisèle Tual pour son livre Eva ou le boulevard de la libération. André va nous lire un deuxième extrait.
Il y a longtemps, vers l'année 1933, un domaine fut acheté en vue d'une mission humanitaire par le grand-père d'Eva, Georgi. Il éleva les 6 tantes et oncles d'Eva. Chaque heure, chaque jour, chaque année était magistralement dirigée par cet homme et son épouse. Même vieillissant après plus de 30 ans, le message de cet homme régnait toujours. La diffusion de ses écrits diminuait pourtant comme peau de chagrin. Georgi mourut un lendemain de Noël, dans la nuit d'un 26 décembre. Chamboulement total dans la famille. Certains membres de la communauté veulent résister, mais tout s'abîme, se fane tristement. L'empreinte de son apostolat, de ses écrits, demeure seulement présente dans quelques pièces de la maison et dans quelques esprits. Les journaux et revues mensuelles publiées, les poèmes, sont jetés dans des bennes à recycler, envoyés au pilon, brûlés. Seuls les habitués demeurent dans le giron d'une dame qui veut reprendre le flambeau, le faire renaître, mais qui n'a pas su s'entourer de chevaliers de lumière. Peu à peu, les volets de la maison ne sont plus ouverts, ni sur la façade de la grande demeure, ni les volets du cœur. S'étiolent les belles phrases de générosité, les valeurs que Georgie défendait et diffusait. Certaines personnes fondatrices de ce mouvement meurent une à une. Les autres vieillissent. Mais attention, tout n'est pas perdu pour tout le monde. Voici les charognards, les envieux, les doux et les tranquilles qui ont œuvré depuis tout ce temps à épier dans l'ombre la lumière qui peu à peu déclinait sous leur ombre portée.
Donc Gisèle, dans la fin de ce livre, ça donne à voir le dénouement de la bataille successorale, on va dire, qui donc a été à l'origine du déchirement de la famille, tel que tu nous l'as expliqué. Alors, on est plutôt là sur la question un peu patrimoniale. En revanche, une question reste en suspens. Qu'en est-il de l'héritage de Georgie, mais peut-être celui de la poursuite de son œuvre, tel que c'est décrit dans le livre? Est-ce qu'il y a une suite? La communauté, toutes ces questions qui restent un peu en suspens.
Alors, j'aime beaucoup que tu me poses cette question, parce que tu ne t'attaches pas au matériel, mais plus à la spiritualité. Et la spiritualité, chacun la porte en soi, et moi, je la porte complètement. C'est-à-dire que je continue à faire des guérisons. Je ne me réfère plus à mon grand-père, forcément, mais à moi-même, à toutes les semences qu'il a mises en moi, et que j'ai voulu faire germer en mes enfants et qui germent petit à petit, et moi que je garde précieusement avec mon époux. Oui.
André va lire un dernier extrait.
Salle d'attente au tribunal. Petite salle dans laquelle ennemis et amis de la même famille se confondent. Plus de 20 ans que certains frères et sœurs s'étaient pas rencontrés. Nous voici donc devant la juge qui a été perspicace face à ce théâtre monté de toutes pièces. La pauvre dame était vraiment perdue. Dès qu'elle voulait prendre la parole, il y avait toujours un membre de sa famille pour aussitôt parler à sa place. « Ne t'inquiète de rien, je t'expliquerai plus tard. Non, non, ce n'est pas tout à fait comme ça. Mais tu as raison, on est tous gentils avec toi. Nous voulons ton bonheur, ou plus exactement, nous voulons ton argent. » Voilà le déroulement de la première heure du jugement. « Je vois que vous tous ici présents voulez le bonheur et le confort de Madame X, » dit la juge. Mais il fallait bien entendre l'autre partie, Eva, la fille aînée. « Et vous, qu'avez-vous à dire, vous qui demandez la mise sous curatelle ? Je vous écoute. » « Madame la juge, je constate amèrement que je n'ai plus de famille, que tous me tournent le dos jusqu'à maman, que je veux protéger. Elle s'affaiblit. Tous le savent et le voient au quotidien. J'avais écrit un livre, Un reflet de ciel, brossant mon passé avec eux. Je vois que ce message est aboli. Alors, la place de cet ouvrage est à présent à la poubelle. Et elle jeta son livre dans la corbeille à papier. La juge regarda Eva, lui demanda de lui donner son ouvrage en main propre et conclut la séance en faisant signer à chacun son rapport. Que faire à présent, si ce n'est attendre la réponse du tribunal?
Et Enfin, moi, en lisant le livre, toute cette affaire familiale, mais ça fait penser peut-être à cause. Il y a beaucoup de références religieuses dans ce livre, et ça fait un peu penser à une secte.
Complètement, c'est devenu une secte après mon grand-père. Un peu sur la fin de maman, et qui sentait le trouble en elle, que c'était plus le même chemin, et elle est devenue Alzheimer. Et elle est morte le nez dans la poussière, ne sachant plus voir clair. Oui, c'est devenu une secte. Et qui s'effrite aujourd'hui et à nouveau, et je veux même plus le savoir ce qui se passe.
Ah oui, donc de toute façon, t'as plus de rapport avec ce groupe, quoi, finalement, cette communauté.
Aucun.
Enfin, d'accord, tu fais ton...
Je fais mon chemin.
Voilà. Non, mais je veux dire, parce qu'au départ, c'était basé sur si moi j'ai bien compris, hein, sur des guérisons que faisait ton grand-père, hein, c'est ça ?
Absolument.
Donc toi, tu tu le continues.
Je continue.
Mais oui. Par contre, pas du tout dans le même état d'esprit que... C'est ça.
Voilà, cette liberté que mon grand-père nous a donnée au départ, de sentir en nous une mission, j'ai voulu le développer, donc la mission est en moi et je la continue. Et je n'ai besoin d'aucun attachement.
Avant de conclure, tu as quelque chose à ajouter sur ce livre ou sur peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé dans l'émission ? Parce que c'est vrai que ça va assez vite.
Mais oui, alors justement, la trilogie, je l'ai réécrit en faisant une pièce de théâtre parce que j'aimerais que ça continue. Je trouve que ce n'est pas anodin, ce n'est pas parce que c'est moi. Mais je trouve que ce n'est pas anodin, donc je l'ai retracé en pièces de théâtre, je l'ai donné à des metteurs en scène et on va voir la suite. Mais je voudrais, oui, que ce soit connu parce qu'en même temps, c'était très grand et très émouvant.
C'est vrai que ce n'est pas une histoire anodine, ça c'est sûr.
Oui.
Donc je rappelle le titre du livre, Eva ou le boulevard de la libération. Voilà.
Ben, donc, merci à tous les trois.
Merci Gisèle.
Cette première quinzaine d'octobre est dédiée, comme chaque année, à Midi, Minuit, Poésie. Donc, dans des conditions évidemment particulières. Du 6 au 10 octobre, plus précisément. Vous trouverez le programme sur midiminuitpoésie.com. On voulait aussi dire... que si vous êtes auteur ou lecteur, enfin les deux, et que vous voulez, vous êtes bienvenue au Ciala. Vous trouverez le lien sur le site de Jet FM, la page décrite d'ici. Voilà, nous nous quittons avec Edith Piaf. En tout cas, merci d'être venue pour nous parler de ça. Donc, peut-être un dernier mot, les deux chansons choisies, c'est des souvenirs, des...
Alors, Jean Ferrat, c'était notre chanson phare avec une chorale, la chorale de Sainte-Luce, et c'était vraiment notre mascotte. On terminait toujours par aimer à perdre la raison, et c'est ma vie.
Donc, la dernière, c'est La Foule, Edith Piaf.
La ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais revu.